Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bienvenue si vous nous rejoignez, ravi de vous retrouver. Appel sur l'actualité, votre rendez-vous chaque matin sur l'antenne de RFI, rendez-vous de témoignages et de débats. Dans la deuxième partie, tout à l'heure, comme chaque vendredi, c'est la libre antenne, c'est vous qui faites le menu de l'émission, l'occasion de poursuivre des débats de la semaine. Mon intuition me dit que le sujet ivoirien va revenir ce matin dans vos commentaires, de même que les élections au Burundi. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, nous alerter sur un sujet que nous n'aurions pas abordé à l'antenne ou dans l'émission, ou en tout cas pas assez à votre goût. Vos messages par téléphone 33 9 693 693 70, par WhatsApp 33 6 89 28 53 64 et sur la page Facebook de l'émission Appel sur l'actualité. D'ici là, comme chaque jour dans cette première partie, vous nous racontez le monde, votre monde en temps de pandémie de Covid-19. Et on commence à Abidjan avec Ben. Bonjour.
Oui, bonjour François.
Ben, vous vouliez, je crois, partager votre mécontentement après la réouverture des écoles en Côte d'Ivoire. C'est une question qui a été mal gérée, selon vous?
Tout à fait. Je pense que la question a été très, très mal gérée. Parce qu'à mon humble avis, le gouvernement n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire au niveau des établissements scolaires. Donc je pense que toutes les mesures n'ont pas été prises pour permettre aux élèves et aux étudiants et encore aux enseignants de pouvoir reprendre sereinement le chemin de l'école. Parce que concernant par exemple la distribution des masques, bon, ça n'a pas été le cas. Le dispositif de lavage de mains devant les établissements, bon, ça aussi, ça n'a pas été fait. Donc vraiment, je pense que au plan sanitaire, c'est pas sécurisant et puis ça risque d'entraîner encore une extension de la pandémie.
C'était pas une priorité selon vous de renvoyer les petits Ivoiriens à l'école?
Non, c'était pas une priorité. C'est-à-dire que si on devait reprendre l'école, je pense que le gouvernement devait s'atteler à prendre toutes les mesures qui s'imposaient pour assurer la sécurité des uns et des autres dans les différents établissements. Et puis, comment ça va se faire avec le nombre pléthorique d'élèves qu'on a dans les établissements publics? Bon, comment tout ça va se gérer? Bon, il y a des élèves qui sont en classe d'examen, bon, il y a les classes intermédiaires, bon, du CP1 au CM2. Est-ce que tout ce monde-là pourra valablement suivre des cours? Et puis, en plus, aller passer des examens. Donc, il y a beaucoup de questions à régler.
Voilà, c'est à suivre en Côte d'Ivoire où hier, par ailleurs, le Conseil national de sécurité, eh bien, a donné de nouvelles indications. L'état d'urgence, la fermeture des frontières, l'isolement du Grand Abidjan, tout cela est maintenu jusqu'au 14 juin prochain. Les boîtes de nuit également, les bars, les cinémas, les salles de spectacle restent fermées. Donc c'est une échéance, un rallongement de cette échéance, puisqu'à l'origine, l'échéance c'était le 31 mai. Finalement, ce sera le 14 juin prochain. Toutefois, les écoles ont été rouvertes, les maquis et les restaurants aussi à Abidjan. Alors cette question de l'ouverture des écoles, bien sûr, elle intéresse partout en Afrique et également au Sénégal où nous attend Dibi. Bonjour.
Bonjour François et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors chez vous, je crois que c'est la semaine prochaine que les classes doivent rouvrir. Les enseignants, en tout cas, ont été appelés à regagner leur poste. Vous êtes à Kaolack, vous êtes professeur d'éducation physique et sportive et vous êtes, je crois, plutôt perplexe quant à la décision des autorités sénégalaises.
Exactement François, je suis perplexe et confus quant à la décision des autorités sénégalaise sur l'ouverture des classes prévues le 2 et surtout sur la suspension des cours d'éducation physique et sportive. Parce que nous nous sommes dit que c'est une stigmatisation de notre discipline. On ne peut pas reprendre les cours avec toutes les autres disciplines sans l'éducation physique et sportive.
Oui, et pourtant, on vous a demandé de revenir dans votre école, mais vous allez faire quoi? De la surveillance pure et simple, du gardiennage et pas d'éducatif?
Exactement, ce qui nous écœure de plus, parce que nous n'avons pas été formés pour veiller, pour être des surveillants ou faire le babysitter ou tenir des thermoflasques. Mmh. Et selon le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, en l'occurrence Mohamed Moustapha Diagne pour ne pas le nommer, Je dis qu'il faudrait que les enseignants, tous les enseignants, y compris nous, professeurs d'éducation physique et sportive, reprenions le chemin de l'école. Non pas pour enseigner, mais pour faire la surveillance, tenir des thermoflasques et autres là.
Mmh. Vous êtes allé voir, vous, votre, vous vous êtes rendu, vous, dans votre école de rattachement. Vous avez vu si l'école était prête à accueillir les enfants?
L'école n'est pas du tout prête. Non seulement le matériel n'est pas arrivé, mais il y a certaines écoles qui n'en sont jusque-là pas été désinfectées. Donc, on se demande si la reprise du 2 est probable. Je ne le crois pas. Je pense bel et bien que cette reprise du 2 est vouée à l'échec.
Pour vous, vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, enfin, vous n'êtes pas davantage prêt aujourd'hui qu'au moment de la fermeture?
Non, du tout. Vous savez, on a fermé les écoles sénégalaises avec moins de 50 cas. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 3348 cas.
Mmh.
Et on nous demande de rouvrir les classes.
Oui, c'est vrai que le Sénégal avait été un des pays les plus prompts à prendre des mesures de confinement. Mais comme beaucoup d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et du continent, eh bien, tentent de revenir à une vie normale. Les chiffres que j'ai en ma possession ce matin, ceux de l'Union africaine, 3348 cas au Sénégal, 41 décès. Et quand on parlait de la Côte d'Ivoire, un peu plus de 2600 cas recensés et 32 décès. Un autre auditeur qui est inquiet de décisions de confinement de la part de déconfinement plutôt de la part des autorités de son pays. C'est à N'Djamena et c'est Issa qui est avec nous. Bonjour Issa.
Oui, bonjour.
Alors vous, ce ne sont pas les écoles qui vous inquiètent, ce sont plutôt les marchés qui ont pu rouvrir. Vous ne comprenez pas bien, alors que le nombre de cas de Covid-19 a fortement augmenté au Tchad ces derniers temps, pourquoi les marchés ont eu l'autorisation de rouvrir?
C'est exact. Imaginez-vous, par exemple, au Tchad, nous avons des cas confirmés, 726. Dans 726, il y avait 65 morts. Vraiment, c'est beaucoup par rapport aux autres pays, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, que vous avez dit tout à l'heure pour des cas confirmés, et le Sénégal, parce que le Tchad est très catastrophe. Vraiment, 700 seulement, il y avait 65 morts, c'est beaucoup par rapport aux autres pays africains. Et le gouvernement a pris la décision très rapidement d'ouvrir les marchés. Il y avait des marchés, les marchés centrales de N'Djamena et les marchés de Nil de N'Djamena. Et les deux marchés, tellement que les gens sont nombreux, il n'y a même pas de place pour circuler. Et ça m'inquiète beaucoup vis-à-vis des cas de mort que nous avons eu ici à N'Djamena. Et ce n'est pas possible que le gouvernement prenne la décision de réouvrir les deux marchés. Je préférais qu'on va attendre un peu, un mois, même 3 mois. Donc on va attendre parce que je crains que dans l'avenir, dans la semaine prochaine, aura plus que des morts et plus que des cas confirmés. Et
oui, vous, Issa, ce que vous avez vu, vous, dans les marchés de N'Djamena, c'est quasiment un retour à la normale. Hein. C'est des gens qui se pressent devant les étals, qui se bousculent un peu, qui ne respectent pas les règles de précaution.
Oui, c'est exactement. Il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas, qui se bousculent. Vous ne trouvez même pas les passages pour aller prendre un produit. Et donc, il y avait un problème de distanciation sociale. Les gens ne respectent pas. Donc, tout est vraiment catastrophique. Et je crains qu'on aura beaucoup de morts dans la semaine prochaine. Et donc, nous voulons attendre un peu. Il y avait tellement que de nombreux. Dans les marchés de Nil, par exemple, vous ne pouvez même pas rester. Il n'y a même pas de place pour s'asseoir. Il n'y a même pas de place pour mettre les pieds. Et là, ça m'inquiète un peu. J'aimerais qu'on va attendre mieux. Même le voiture des écoles, c'est mieux que le voiture des marchés ici à N'Djamena. Les deux marchés, vraiment, tellement que les gens sont coincés, vous ne trouverez même pas les passagers, vous ne pouvez même pas appeler quelqu'un. Personne ne vous attend. Les gens sont nombreux. Donc, ils ne respectent pas la distanciation sociale. Même si vous portez des masques, c'est dangereux. Les gens vous touchent à la main sans que vous le savoir. Voilà, c'est vraiment très difficile cette décision. J'aimerais qu'on va rester un mois, deux mois encore si nous avons maîtrisé toute la situation. À ce moment, on va rouvrir le marché.
Ouais, pour l'instant, c'est pas le cas selon vous. Merci Issa d'avoir appelé l'équipe d'appel sur l'actualité à N'Djamena. Nous sommes maintenant en ligne de Niamey et on croise les doigts parce que Amadou est avec nous. Bonjour Amadou.
Bonjour. Bonjour François.
Alors Amadou, pour ceux qui ne nous ont pas suivis cette semaine, c'est la troisième fois qu'on essaye d'entendre votre histoire en entier. Jusque-là, le réseau téléphonique ne nous a pas beaucoup aidé. Alors je rappelle, Amadou, vous êtes originaire du Niger, vous êtes à Niamey, mais vous habitez, vous résidez à Lomé le reste du temps et vous aimeriez pouvoir rentrer au Togo justement en provenance de Niamey où vous étiez rendu suite à un deuil. Et pour l'instant, vous ne pouvez pas rentrer à Lomé. Racontez-nous ça.
Voilà, donc pour l'instant, le Togo ne disposant d'aucune représentation diplomatique ici, nous ne savons pas à qui nous adresser. Nous avons pu obtenir néanmoins des autorités nigériennes un laissez-passer pour sortir du Niger.
Amadou, est-ce que vous êtes avec là ? Amadou, bon, on va essayer de vous joindre sur l'autre. On va essayer de vous joindre sur l'autre numéro. Amadou, est-ce que vous êtes là ? Vous m'entendez ?
Allô ?
Ah, Amadou, on est avec vous. C'est bon, on vous entend. Donc, vous avez eu votre laissez-passer pour sortir du Niger. Mais est-ce que pour rentrer au Togo, ça suffit ?
Voilà, pour rentrer au Togo, c'est ça la difficulté.
Bon, Amadou, je suis désolé, c'est vraiment jamais 203, on n'arrive pas à vous entendre complètement. En tout cas, on espère que vous allez pouvoir regagner Lomé avec votre plus jeune enfant et votre compagne, puisque vos autres enfants vous attendent au Togo depuis désormais 2 mois que vous êtes coincés. Bon, on va aller à Cotonou, où Bertino est là. Bertino est-il là ? Non, Bertino n'est pas là. Alors, on va aller se rendre directement à Kinshasa, peut-être, où Florent Ibeng normalement est en ligne avec nous. Florent, est-ce que vous êtes là ? Je vois que le téléphone est allumé. Est-ce que Florent Ibengue est avec nous à Kinshasa ? Non, on n'a pas Florent Ibengue, l'ancien sélectionneur des Léopards de RDC, le coach de l'AS Vita Club qui nous rejoint. Bonjour Florent Ibengue, merci d'être avec nous de Rappel sur l'actualité ce matin. Comment allez-vous ?
Tout va bien, merci.
Donc je rappelle, vous êtes l'entraîneur de l'AS Vita Club, le grand club de football quinois. Vous avez été sélectionneur de la RDC plusieurs années, avec notamment une 3e place à la CAN 2015. Le football congolais est à l'arrêt en raison de la crise du Covid-19. Le championnat a été attribué à son leader, le TP Mazembe. À ce moment-là, vous étiez 2e avec l'AS Vita. Selon vous, c'était la meilleure solution de clore cette saison ?
À clore la saison, je pense que c'était la meilleure solution. Maintenant, attribuer le classement, c'est autre chose. C'était une mesure très compliquée. Je l'ai dit que je voulais pas être, j'aurais pas aimé être à la place des gens qui décidaient, parce que ça allait porter à beaucoup de contestations ou aux problèmes d'éthique, parce que toutes les équipes n'avaient pas joué le même nombre de matchs. Donc, c'était un peu compliqué, mais bon, voilà. Les responsables ont pris la décision qu'il en soit ainsi, et puis qu'on continue. Et comme on dit, à chaque chose, malheur est bon, qu'on puisse justement à l'avenir réfléchir et mettre en place les règles pour qu'il y ait moins de contestations possibles.
Oui, dans ces cas-là, mais c'est sûr qu'en période d'épidémie, c'est le football, ça semble un peu subalterne par rapport au risque encouru pour les joueurs, pour les encadrants et puis pour les spectateurs éventuellement aussi.
Exactement, c'est pour ça que j'ai dit que j'étais d'accord que ça s'arrête. Hein. Vraiment, là, on ne pense même pas au classement, on pense vraiment à la santé des gens.
Mmh. Où en est-on en termes de reprise de l'entraînement, de la compétition en RDC ? Est-ce que vous avez un calendrier, des indications à nous partager ?
Non, vraiment, là, pour l'instant, on ne peut, et c'est très compliqué pour nous, entraîneurs. On travaille d'ailleurs ensemble, on s'est fait un petit collectif, nous tous, les entraîneurs de congolais, des équipes nationales et puis des clubs d'élite. On ne sait pas. Vu qu'on ne sait pas quand est-ce que cette maladie va se terminer. Donc c'est très compliqué. Et puis le gouvernement a pris des mesures que l'on se doit de suivre, de se réunir à moins de 20 personnes. Mmh. On a des problèmes dans le transport. Il faut dire un petit peu à tous ceux qui vous écoutent que la RDC est un pays grand comme 4 fois et demi la France.
Eh oui.
Donc,
tous les voyages se font en avion, nécessairement.
Exactement. Les moyens se font en avion et on n'a pas suffisamment de compagnies aériennes. Et en plus, il y a les villes sont confinées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quitter, par exemple, Kinshasa pour aller ailleurs. Mm-hmm. Donc, toutes les villes sont confinées. Donc, de ce côté-là, on ne peut déjà pas voyager. Et c'est très compliqué. Donc, on est dans l'expectative. On ne sait pas quand est-ce qu'on va démarrer et c'est très compliqué pour nous, pour ne fût-ce que faire les entraînements.
Ouais, quand vous voyez les championnats européens qui s'apprêtent à reprendre ou qui ont repris comme le championnat allemand avec des matchs à huis clos, qu'est-ce que ça vous inspire, un peu de jalousie de ne pas pouvoir jouer, ou est-ce que vous trouvez que quand même le foot à huis clos, ça gâche un peu quand même la plus grande partie du plaisir?
Exactement. Le foot, c'est un sport populaire et ça se joue avec du monde dans les gradins. Donc là, on est en train d'assister à autre chose. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile de confiner les gens. Peut-être pas faire des... Ça ressemble plus à des matchs amicaux, hein. Mais bon, là-dessous, on a vu toutes les pertes qu'on a pu avoir au niveau financier. Le foot est devenu aussi à ce niveau-là. Et je crois qu'avec les retransmissions télé, le foot allemand arrive un petit peu plus à vivre que les autres. Mais ils ont la possibilité de mettre en place toutes ces mesures barrières. Ils ont la possibilité de mettre beaucoup plus de sécurité que nous. Donc, pas jaloux, juste voir un petit peu ce que nous aussi, on pourrait... faire à l'avenir.
Ouais, mettre en place de votre côté. Au quotidien à Kinshasa, comment est-ce que vous trouvez la population congolaise? Est-ce que vous trouvez que les gens respectent les mesures barrières, sont précautionneux?
Non, malheureusement, c'est très très dangereux. C'est très dangereux parce que justement, on a du mal à respecter les mesures barrières et surtout, ce qui peut nous sauver un petit peu en ce moment, c'est le port du masque et on le respecte pas toujours comme il le faut. Et ça, c'est un petit peu dangereux. Bon, pour l'instant, on n'est pas très touché. On n'est pas très touché dans les quartiers populaires, ce qui fait que les gens n'y croient pas. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Les gens n'y croient pas. Et bon, quand on a un petit peu d'aura dans le public comme j'en ai, ben il faut pas se priver. Donc je fais beaucoup de prévention, je continue à en faire et pour essayer de faire en sorte qu'on puisse prendre en compte un petit peu, toucher du doigt la réalité de ce fait.
Votre message, c'est de dire aux Congolais de bien porter les masques, de ne pas trop se coller les uns aux autres, de laisser de l'espace pour ne pas être infecté.
Oui, on a avec j'ai réuni les entraîneurs congolais à travers les moyens modernes, évidemment, pour lancer un message dans les différentes langues du pays sur les mesures barrières. Et ensuite, quand on s'est rendu compte, parce que je travaille beaucoup avec le professeur Muyembe, qui est le coordinateur de la riposte.
Ouais,
donc je travaille beaucoup avec lui, et quand il s'est agi de mettre en place en premier lieu le port du masque pour éviter un petit peu une propagation plus rapide, j'ai convié tous les joueurs de la première division, donc j'ai pris les leaders de chacune des équipes pour lancer un message sur le port du masque dans les différentes langues du pays. Et puis bon, on continue à marteler, mais c'est vrai que la plupart des décès qui se passent ici au pays ne touchent pas la population des quartiers populaires, mais les quartiers UP. Donc la majorité de la population ne voit pas les morts au quotidien, donc ils pensent que cette maladie n'existe pas. Et puis au départ, quand on a parlé de la maladie, il y a eu quelques incompréhensions et la population pense que on ne parle de ça que pour pouvoir soutirer de l'argent de la communauté internationale.
Et oui, beaucoup de fausses nouvelles, effectivement. Merci Florent Ibengué d'avoir été avec nous et de votre témoignage.